Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 30 juillet 2021, c'est donc le dernier jour du mois de juillet, en tout cas au niveau trading. Demain, c'est le week-end, lundi est une autre semaine et est un autre mois en même temps. Globalement, hier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a terminé en hausse un peu partout, pas non plus dans l'euphorie la plus grande. Il faut dire qu'effectivement, le ton arrangeant de la fête de mercredi dernier pesait en tout cas encore sur les marchés, motivait encore les gens, puisque on nous a repoussé une éventuelle hausse des taux, un éventuel tapering à une autre époque, une autre saison, une autre année, on n'en sait rien, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas au goût du jour. Donc on a dû se concentrer un petit peu sur le reste. Et sur le reste, eh bien, on s'est concentré comme d'habitude sur les résultats trimestriels et aussi sur un petit peu la macro. Alors dans l'ensemble, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut retenir d'hier, c'est que Amazon a plus ou moins raté les attentes des analystes, en tout cas au niveau des revenus. C'est la première fois depuis 3 ans que ça se produit. Et puis, la croissance des ventes est en léger ralentissement et le CFO a laissé entendre que, sans vouloir faire de précision, le reste de l'année serait un peu de la même veine. Donc, on s'attend plutôt à une croissance des ventes en deçà de ce qu'on attendait avant, plutôt dans les dans le milieu des 10, entre 10 et 15% de croissance, un peu moins qu'avant. Donc, autant vous dire que quand on vous dit rater les revenus plus baisse de croissance des ventes, on n'a pas trop aimé la chose. Et résultat, le titre s'est fait avoiner hier soir after close en perdant 7%. Pas de quoi sauter au plafond. On est revenu sur la cassure qu'ils avaient fait récemment, la cassure technique. On a fait ce qu'on appelle un pullback, à voir un petit peu comment ça va se comporter ces prochains temps. C'est pas non plus la fin du monde, mais voilà, c'est pas la meilleure des publications trimestrielles pour Amazon et c'est clairement la moins bonne des 5 GAFAM. Alors, par contre, ce qu'il faut retenir au niveau des GAFAM dans leur globalité, après la publication des 5 grands noms, aujourd'hui, si vous cumulez les revenus de chacun, ça représente ce sera un peu comme si vous aviez le GDP de l'Australie, ni plus ni moins, donc ça va. Si on les met en meilleur 5 bilans ensemble, c'est plus ou moins les revenus de l'Australie. Alors nous, ça nous fait une belle jambe, et puis aujourd'hui, il faut quand même noter que le S&P 500, 500 titres dans le S&P 500, les 5 GAFAM représentent 5% du S&P 500. Alors, c'est beaucoup, c'est pas la première fois que ça se produit. D'ailleurs, la dernière fois que ça s'est produit, sauf erreur, c'est quand il y a eu, vous savez, au mois d'août l'année dernière, quand on a parlé de baleines et puis de cette boîte, de ce gros fonds au Japon qui était surexposé en termes de dérivés et qui avait fait un petit peu de secousse dans le marché, qui avait renvoyé les GAFAM un peu à leurs chères études. Et puis pendant quelques mois, on n'avait plus fait grand-chose sur ces 5-là. Et donc du coup, on est de nouveau à 25% du S&P 500 pour 5 titres. 5 titres représentent 25% du S&P 500. Et c'est énorme. Dans les autres nouvelles au niveau des actions, il faudra noter aussi quand même une petite nouvelle assez intéressante. Et c'est l'IPO de Robinhood. Alors Robinhood, vous connaissez, c'est ce trader, ce broker online américain, cette app sur laquelle on peut traiter en ne payant aucun frais. Le titre a ouvert hier à 38$, était pricé à 38$. On a perdu 8% d'entrée de jeu. C'est pas une super bonne nouvelle. En général, c'est pas que ça change la face du monde, mais on va dire que quand une IPO sort et puis que ça part directement en dessous, c'est jamais, jamais une très très bonne nouvelle. Pas pour la société en elle-même, pour le marché en lui-même. Ce qui veut dire, ça veut dire qu'on a un peu moins d'intérêt global. Bon, Robinhood est quand même une société assez discutée. On n'est pas tous super fans de ce qu'ils font. Il y a beaucoup de critiques. Donc c'est peut-être ceci qui expliquerait cela. Mais en tout cas, c'est pas forcément une top nouvelle quand vous avez les IPO, les hot IPO du marché comme ça, qui ouvrent d'entrée moins 8%. Mon conseil sur Robinhood, allez pas mettre les mains dedans là, pour l'instant. Je déconseillerais fortement d'essayer de jouer à ça. Ce titre-là est très peu transparent, est trop critiqué, il y a trop d'émotions pour l'instant dedans. Alors, à moins que vous ayez envie de faire vraiment du trading en acceptant les risques élevé de ce que représente du trading là-dedans, j'irai pas mettre les mots dessus, mettre les mains dedans, pardon, parce que je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop émotionnel pour l'instant. Niveau macro, c'était assez intéressant d'observer la journée au niveau du macro hier parce que on a eu des chiffres qui n'étaient pas top, franchement, mais on a préféré faire un petit peu la théorie des trois singes. Hein. On n'entend rien, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Et puis, encore une fois, ce qu'il faudra retenir surtout au niveau du macro, c'est que les attentes étaient encore spectaculairement complètement à côté de la plaque, puisque on attendait hier le GDP, enfin le PIB américain, à 8,5% de croissance. Hein, tout le monde était chaud bouillant sur l'histoire. C'est sorti à 6,5%, donc pas 0,1 à côté, 2% à côté, donc encore un grand score au niveau des prévisionnistes, analystes et autres économistes. Alors du coup, on pourrait se dire, ouais, quand vous attendez un GDP à 8,5% puis que ça sort à 6,5%, c'est comme s'il y avait un truc qui marchait pas aussi bien qu'était prévu. Mais bon, on s'en fout, hein, le marché a toujours ce côté positif et positivisme exacerbé, je vais dire, où finalement on se dit bah c'est pas si grave. Hein, je veux dire, c'est 6,5, c'est bien aussi parce que c'est bien. Mais vous savez pourquoi c'est bien? Parce que du coup c'est moins fort. Donc si c'est moins fort, ça éloigne le risque inflationniste. Et si ça éloigne le risque inflationniste et que ça corrobore le fait que l'inflation ne sera que transitoire, ça éloigne aussi la possibilité d'un tapering ou la possibilité pire d'une hausse des taux. Donc c'est plutôt positif. Enfin bref, on a cette capacité à s'adapter et à trouver vraiment le bon à l'intérieur de toutes les nouvelles. D'ailleurs, ça continue, hein, puisqu'après, on a aussi les jobless claims, qui étaient plus forts qu'attendus. 400 000 nouvelles demandes d'indemnité chômage contre 380 000 attendus par les analystes. Là encore, 20 000 à côté. Alors, à noter déjà que ça fait la troisième semaine de suite que c'est plus fort que les attentes des analystes. Alors, mais par contre, on trouve quand même que c'est une bonne nouvelle parce que cette fois à 400 000, c'est quand même moins que la semaine dernière à 424 000. Donc les analystes se sont vautrés, mais économiquement parlant, c'est moins. Alors la semaine dernière, c'était 419 000. On a révisé à la hausse de 5 000. Donc là, on a 5 000 personnes près pour finalement se dire, ok, bah finalement, cette semaine à 400 000, c'est moins pire que la semaine dernière à 424 000. Donc on va de nouveau trouver du positivisme où il y en a. En tout cas, perso, je commence à envisager sérieusement de faire des études en psychiatrie parce que je crois que plus ça va, plus la réflexion des marchés devient complexe. Autrement, dans le reste, eh bien, on parle du plan d'infrastructure de Biden qui semble voir le bout du tunnel. En tout cas, c'était plutôt encourageant. Tout le secteur était sous pression haussière hier. Encore un coup de maître, hein, du Messie Joe Biden qui ne fait aucune erreur, visiblement, depuis qu'il est là. Enfin, on verra. Il ne reste pour lui plus qu'à faire augmenter maintenant la tech chinoise. Alors à ce propos, ça va un peu mieux au niveau de la tech chinoise, ça se détend un petit peu, le gouvernement chinois fait des commentaires positifs. Bon, aujourd'hui, ça retape de nouveau un petit peu, mais pour l'instant, on semble quand même avoir trouvé un fond et le graphique ressemble un tout petit peu moins à un couteau qui tombe depuis ces derniers jours. Donc maintenant, il ne faut pas non plus rêver parce que même si le gouvernement chinois exprime son intention de ne pas vouloir détruire cette partie-là de son économie, de son image économique, on va dire, il faut quand même pas penser que les Chinois ils vont devenir un gouvernement libéral en moins de 3 jours et puis que ça va être Prosper You Plaboum dans 2 semaines. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de se détendre un tout petit peu du côté de la Chine. Et puis, on parle beaucoup du Covid, le Covid qui redémarre. Cette fois, c'est pas la chenille, c'est le Covid. Et même si le monde fabuleux de la finance semble s'en cogner comme de l'an 40, on peut quand même imaginer quelque part le retour des masques dans la rue. On parle aussi de l'efficacité du vaccin de Pfizer qui chute de 84% après 6 mois. Alors vous faites vacciner 2 doses, 6 mois après vous avez quasiment plus d'immunité, si j'ai bien compris ce qu'a déclaré le CEO de Pfizer. Et le fait que maintenant toutes les boîtes qui font dans l'ARN, dans ce type de vaccin, eh bien, sont en train de préparer un booster qui nous forcerait plus ou moins à nous revacciner tous les 6 à 12 mois. Donc tout ça, c'est un peu moyennement motivant, en tout cas. Mais bon, ça va, c'est apparemment ce qu'on parle du vaccin et du Covid. Alors pour l'instant, les marchés sont pas très sensibles à ça, mais quand même. Alors on peut comprendre hein, ces histoires de booster, parce que c'est vrai que Pfizer a déclaré également hier que le vaccin Covid ne lui avait rapporté que 33 milliards de dollars. Donc autant essayer de maximiser les revenus En passant à la question du booster. D'ailleurs, Moderna est aussi en train de bosser sur le même principe. En tout cas, quand on voit un petit peu la direction que ça prend au niveau du Covid, je pense qu'il va falloir, d'ailleurs, on commence un petit peu hein, à regarder à nouveau les titres qui sont liés au télétravail. Zoom est reparti violemment à la hausse depuis 2-3 jours. Bon, il y a encore Peloton qui est en retard, mais je pense qu'il faut quand même gratter de nouveau dans cette thématique-là. Parce qu'il y a un truc qui a l'air de se passer, je suis pas sûr que ce soit très très bullish, en tout cas pour la liberté dans les rues ces prochains temps. À côté de ça, bah Biden, il pousse en faveur de la vaccination. Hier, il est apparu à la télé pour la première fois avec un masque de nouveau. Donc, on reparle de nouveau des masques. Il faut que tout le monde se vaccine, etc., etc. Et en tout cas, il se pourrait quand même que le moral des gens qui pensaient que c'était terminé puisse en prendre un petit coup. Alors, pour l'instant, effectivement, les marchés s'en foutent, mais à surveiller ces prochains temps. Autrement, bah, ce matin, les futurs sont sous pression. Alors, il n'y a rien de spécial. Il semblerait qu'il y ait pas mal de gens qui veulent prendre des profits après un très bon mois de juillet. On notera quand même qu'hier, on a clôturé au plus haut sur le SOX, mais qu'on a l'air de plus vouloir battre des records. Malgré une très très belle journée sur le secteur, on pourrait avoir tendance à se dire que c'est peut-être un top qui est en formation. Mais bon, en même temps, il y a 2 semaines en arrière, on nous a fait le même coup le vendredi. On a l'impression que le marché se fatigue, les gens sont tendus, on reparle du Covid. Le lundi, on est en mode panique. Et puis la semaine suivante, on finit au plus haut de tous les temps. Bref, on n'a pas l'air d'arriver à trouver vraiment une direction. Et puis, on hésite un petit peu par rapport à tout ce qui se passe. On va de trimestriel en macro et de macro en Covid. Mais franchement, on n'arrive pas à prendre une monstre décision pour l'instant, puisque c'est vrai qu'en plus, ce que nous disent les sociétés, ce que nous disent les banques centrales, c'est attendez, on verra. Alors je vous dis, j'aimerais quand même bien qu'il y ait un petit peu plus de vols qui reviennent dans le marché. J'en arrive presque à me dire que bah, les tweets de Donald Trump commencent à me manquer sérieusement. La question du jour aujourd'hui, on me demande que se passe-t-il sur Nestlé? C'est quelqu'un qui observe Nestlé depuis quelques temps et qui se dit je comprends pas, tout d'un coup elle démarre, après elle revient, pourquoi elle a baissé il y a 2-3 jours? Bah, la dernière baisse de Nestlé, je crois que c'était surtout consécutif au résultat, hein, donc c'est pas que les chiffres étaient mauvais, mais comme le titre était beaucoup monté, il y a des prises de profit. Nestlé, c'est pas l'action la plus fun à traiter au niveau trading. Au niveau investissement, c'est un fonds de portefeuille, point barre. Donc moi, Nestlé, la seule chose que j'apprécie chez elle, c'est de dire ok, bah, dès qu'elle est un peu plus faible, j'en rachète pour le fonds de portefeuille et puis on attendra. Mais aller faire du trading là-dedans, c'est toujours un petit peu compliqué puisque, sauf erreur, les chiffres qui ont été publiés l'autre jour étaient très bons. Mais simplement, ben voilà, le titre était beaucoup monté ces derniers temps. On prend les profits. Si on regarde un petit peu ce que disent les analystes, alors c'est vrai que ces temps, ils n'ont pas habitué à un track record impeccable. Mais sur Nestlé, il n'y a pas un seul analyste qui est sur vendre. Il y en a un qui est sur alléger, mais tous les autres sont sur acheter, strong buy, enfin bref, toujours assez positif. Le target moyen est à 120 francs suisses, et puis le plus extrémiste des positifs sur les analystes, eh bien, il envisage une Nestlé à 135 francs suisses. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop de peur à avoir. Donc, vu ce qu'elle est en train de faire depuis quelques jours, là, prise de profit. Juste après les résultats, moi je laisserai passer 1 ou 2 jours et puis j'essaierai de remettre les pieds dedans avec une vision 3 à 6 mois parce que ça reste quand même un titre défensif, ça reste le titre central du SMI. Quelque part, si Nestlé n'avance plus, le SMI n'avance plus. Donc moi je serais plutôt acheteur sur faiblesse pour jouer le rebond plus tard. On voit qu'historiquement sur le graphique, c'est quand même un titre qui devrait retrouver sa superbe comme d'habitude hein, régulièrement donc je pense que là on a un immense train de dossier. Le worst case des worst case scénarios, ce serait un retour dans un premier temps sur les 100 francs puis après alors ce serait le pire des pires, ce serait le 92, mais en dehors de ça il faudrait vraiment qu'on ait un crash pour qu'on vive un truc pareil. Donc pour l'instant plutôt acheteur sur faiblesse, regardez bien la moyenne mobile des 200 jours, peut-être qu'ils vont aller nous la chercher mais franchement je suis pas sûr. Donc Nestlé, c'est plutôt un bail long terme, donc il ne faut pas trop se poser de questions. Mais là, je pense qu'elle a surtout baissé suite au run qu'on vient de faire quand même depuis quelques mois, là, qui était juste assez spectaculaire. Des bons chiffres, les gens prennent les profits, je crois qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi matin pour la suite des aventures fabuleuses du monde merveilleux de la finance.